Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons la série encore pour bien longtemps, évidemment, parce que c'est tellement important, le thème de la prière. Il y en aura beaucoup, mais c'est le plus important, qu'on le veuille ou pas, qu'on le croie ou pas, sans la prière, ça ira pas fort. Chers amis, Dieu est surpris. Il s'étonne. J'ai oublié de vous dire que ceci est la neuvième leçon. Donc, comme je viens de le dire, Dieu, il s'étonne. Ceci est vraiment une pensée étonnante dans tout le sens du terme. Mais combien allons-nous être émus quand nous allons apprendre quelle est la cause de l'étonnement de Dieu? À premier abord, la cause peut nous sembler d'une importance minime, mais si nous sommes prêts d'y penser un peu plus profondément, alors nous allons très vite découvrir qu'elle est d'une extrême importance pour chacun qui croit d'une façon sincère en Jésus-Christ. Dans Ésaïe, chapitre 59, verset 16, l'Éternel s'étonne, oui, il s'étonne, de ce que aucun homme n'intercède. Mais diront les uns, « Oh, cela était-il vraiment il y a bien longtemps ? C'est dans le passé, c'est plus valable pour aujourd'hui. » Du temps où les sacrifices offerts pour le pécheur avaient une signification bien plus grande que l'humble intercession pour que des pécheurs puissent être sauvés. Or, mes chers amis, nous serions à notre tour très étonnés de voir que dans les temps actuels, il y en a si peu qui savent ce qu'est vraiment l'intercession dans la prière. C'est parce que la prière n'a plus la place qu'elle devrait avoir dans notre vie de tous les jours, que Dieu est vraiment étonné. Oui, chers amis, combien d'entre nous croyons vraiment en la puissance de la prière? Pourquoi tant de chrétiens sont-ils si souvent vaincus à la place d'être vainqueurs? Mais c'est simplement parce que ils prient trop peu. La prière ne tient pas la place qu'elle devrait avoir dans leur vie de tous les jours. Pourquoi y a-t-il autant de serviteurs qui, par leur ministère, ont amené si peu d'âmes des ténèbres à la lumière, je vous le demande? Certainement pas, parce qu'ils ont trop prié. Ou pensez-vous le contraire? Pourquoi nos communautés, nos églises ne sont-elles pas bouillantes pour le Seigneur Jésus-Christ? Mais c'est tout simplement parce que leurs réunions de prière y sont inexistantes, et ceci le plus souvent. Or, le Seigneur Jésus-Christ est aujourd'hui tout aussi puissant que jadis. Le Seigneur est aujourd'hui tout aussi attentif à ce que des âmes soient sauvées qu'autrefois. Son bras n'est pas trop court pour nous venir en aide, mais il ne peut pas nous aider, et ceci tant que nous ne prions pas plus sérieusement. Nous pouvons être absolument sûrs que la raison de tant d'échecs se trouve dans le manque de notre prière en secret, c'est-à-dire notre prière intime avec Dieu. Si Dieu s'est étonné au temps d'Ésaïe, alors que nous n'avons nullement à être surpris, si nous devons constater qu'au temps où il fut fait homme, il s'est également étonné, il s'étonna de l'incrédulité, oui, de l'incrédulité de certains, incrédulité qui souvent l'empêchait de faire les œuvres qu'il aurait aimé accomplir. Car dans Saint Marc, chapitre 6, verset 6, il est dit « Il s'étonnait de quoi ? Il s'étonnait de leur incrédulité. Mais quel doit être son étonnement aujourd'hui quand nous lui disons que nous l'aimons vraiment et qu'il doit constater qu'il y en a si peu qui s'attachent à lui. Ésaïe, chapitre 64, verset 6, nous dit, je crois, ceci. « Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes ?» Chers amis, est-ce qu'il y a quelque chose de plus étonnant qu'un chrétien qui a une vie pratiquement sans aucune prière? Nous vivons dans un temps de grands événements et beaucoup de signes nous montrent que ce sont les derniers temps, il me semble, les derniers temps pendant lesquels Dieu a dit qu'il déverserait son Esprit Saint, l'Esprit de prière, sur toute chair. Car dans Joël, au chapitre 2, verset 28, il est dit ceci. « Après cela, je répandrai mon Esprit Saint sur toute chair, vos filles et vos filles, c'est-à-dire vos fils et vos filles, prophétiseront, et même vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Mais pour l'instant, oui, pour l'instant, la plupart de ceux qui s'appellent chrétiens ne savent guère ce que prier veut vraiment dire. Et beaucoup de nos assemblées et églises n'ont pas seulement pas de rencontres de prière, mais ils s'y refusent. C'est le pire qu'on peut imaginer. Et qu'en est-il des églises dans lesquelles les rencontres de prière ont été maintenues? Est-ce que vous en voyez vraiment beaucoup de ces réunions de prière autour de vous? Le fameux et très grand serviteur de Dieu, Spurgeon, ce grand homme de Dieu pouvait se réjouir de visiter chaque lundi soir, tenez-vous bien, une réunion de prière qui avait rarement moins de 1200 participants. Avez-vous entendu cela? Chers amis, avons-nous cessé de nous confier en la prière? Si 4 ou 5 croyants participent encore aujourd'hui aux réunions de prière, quand il y en a encore, n'est-ce pas malgré tout un fait évident que la plus grande partie des chrétiens n'y participe jamais? Pire que cela, la plupart d'entre eux n'y pensent même pas. Il y a tellement de choses. Oh là là, la télévision c'est plus rien, il y a tout le reste. Oh là là, ça prend tout le temps qui reste à un être humain le soir. Or, comment cela se peut-il? À qui en est la faute? Souvent nous disons, Ah, c'est seulement une réunion de prière. Oh, quelle barbe! Ce sont des expressions de ce genre qui ne sont pas très rares. Combien d'entre vous ont vraiment du plaisir, du bonheur d'assister aux réunions de prière? Je vous le demande. Cela ne devrait-il pas être un devoir pour chacun? Ne m'en voulez pas. Oh non, je vous en prie, si je vous pose autant de questions. En aucun cas, je ne désire faire de la critique. Ce n'est surtout pas mon but, ni de condamner qui que ce soit. Mais mon désir, c'est d'encourager, oui, d'encourager tous les chrétiens de se tenir devant Dieu comme jamais auparavant. Nous ne serons jamais aussi victorieux que lorsque nous trouverons à nouveau le symbole que une grande peinture avait montré. C'était une femme qui était à genoux. Et nous ne serons jamais vraiment victorieux que lorsque vous et moi, nous nous trouverons à nouveau à genoux. Mais voyez-vous, je crois que nous avons atteint l'époque où bientôt le son de la trompette va retentir, que vous le croyez ou pas. Et c'est pour cela, réveillons-nous de la torpeur et du sommeil spirituel dans lequel nous sommes plongés et faisons tous un grand appel à la prière autour de nous. Chers amis, est-ce que nous croyons vraiment, sincèrement, que la prière est une puissance? Est-elle la plus grande puissance sur la terre ou est-ce que ce n'est pas vrai? Est-ce vrai que la prière met en mouvement la main qui dirige cet univers? Est-ce que les indications que Jésus-Christ nous donne me concernent vraiment? Est-ce que les promesses que Jésus-Christ vous donne au sujet de la prière sont encore valables aujourd'hui? La plupart d'entre nous allons dire oui. Oh oui, bien sûr, c'est sûrement valable. Mais personne ne se sent le courage de dire non, non, non. Et pourtant, est-ce que notre Seigneur nous aurait donné des indications au sujet de la prière qui sont superflues et totalement inutiles? Pensez-vous qu'il ne peut pas exaucer aujourd'hui encore, simplement qu'il s'y intéresse plus à tous nos problèmes, à nos maladies? Les trois grands commandements qu'il veut nous donner sont, écoutez bien, priez, faites ceci et allez en paix. Est-ce que nous lui obéissons vraiment? Très souvent, dans les prédications, on dit « faites ceci », mais si nous n'obéissons pas aux directives de Jésus-Christ qui dit « priez », le faites-vous vraiment? Faites ceci et le allez en paix. Croyez-moi, ne seront pas de très grande utilité simplement dire « allez en paix » à la fin d'un culte. C'est bien beau, mais est-ce que cela suffira vraiment? On constatera vite que tout notre insuccès et toute la défaillance dans notre vie spirituelle et dans le ministère sont à attribuer à notre manque de prière quotidienne. Cela peut, à premier abord, sembler de l'exagération. Hein ? Il semble que j'exagère. Mais plus nous aurons l'occasion d'étudier plus avant ce sujet très important, plus nous serons convaincus de la véracité, de la vérité absolue, de ces constatations. Si nous recommençons à revoir tout ce que la Bible, parole de Dieu, a à nous dire sur le ministère et le merveilleux sujet que représente la prière, alors essayons de revoir ces promesses en les relisant comme si nous les lisions pour la première fois de notre vie. Je vous promets que vous serez les premiers à votre tour, croyez-moi ou pas, d'être étonnés du résultat. Du reste, nous verrons que prier ne veut pas simplement dire prendre de bonnes résolutions, mais non. Croyez-moi, il est surtout nécessaire de crier à Dieu et de l'implorer de tout notre cœur et de toute notre âme. Du reste, comme David, dans le fameux psaume 51, où il dit « Créez en moi, ô Éternel, un cœur pur. » Je vous prie, chers amis, et ceci de tout mon cœur, de bien vouloir relire tout ce magnifique psaume en entier. Seul, surtout seul, dans votre chambre, et si possible, pourquoi pas? Ou auriez-vous honte du Seigneur? Surtout, essayez d'être à genoux. Croyez-moi, vous ne le regretterez jamais. Les paroles que le disciple bien-aimé de Jésus-Christ nous donne doivent être prises en considération tout autant aujourd'hui que autrefois. Voici ce qu'il nous dit, je crois, dans la première épître de Saint Jean, chapitre 3, versets 21 et 22, hein. Il dit, « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevrons de lui. Parce que quoi ? Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Alléluia. Cela est vrai, et je le crois de tout mon cœur. Oui, voyez-vous, au fait, c'est une promesse sans limite. Et pourtant, combien peu nous la réalisons, combien peu nous attendons de notre Seigneur. En effet, on commence à mieux comprendre pourquoi le Seigneur est tellement étonné de notre incrédulité et de notre manque de foi. Est-ce que ce n'est pas nous qui devrions être surpris et étonnés? Je vous pose la question. Aujourd'hui, je fais cet appel. Vas-tu y être attentif ou va-t-il trouver des oreilles sourdes à l'appel qu'il te fait et te laisser sans vie, sans aucune vie de prière? Chrétiens, réveillons-nous. Savez-vous que les musulmans prennent le dessus de plus en plus partout? Ils ont juré qu'ils le feraient. Ils ont même juré que le monde entier deviendrait musulman. Croyez-moi, eux, ils travaillent, ils militent, ils se mettent à genoux, le derrière en l'air, et ils sont d'une très très grande motivation. Oui, Satan, il nous aveugle absolument tous, même vous et moi. Il fait de grands efforts, croyez-moi, et ceci afin de nous empêcher, et il est surtout contre tout ce qui a attrait à ce sujet. Il y a 2 ans que j'avais commencé l'étude de la prière, mais voyez-vous, le diable m'a mis hors d'état de pouvoir le faire. Et c'est seulement en consacrant de longs instants, aussi bien au milieu de la nuit que pendant la journée, qu'il m'est donné d'avoir un peu de temps et de ce fait de pouvoir m'y consacrer un peu plus. Par peur que cela pourrait être mal interprété, je n'ose pas vous parler des attaques de la part de l'ennemi. De l'ennemi, ah oui, aussi bien sur ma santé qu'au point de vue matériel. Il ne se gêne pas, l'ennemi. Il peut vraiment vous attaquer de toutes parts, que ce soit la santé ou le domaine matériel. Ça ne le gêne pas. Il n'en a les moyens. Croyez-moi, Satan ne craint rien autant que la prière. Il faut que cela soit bien clair pour nous tous. Tous ces efforts seront de nous y empêcher. Il s'occupera à nous laisser bien tranquilles en nous laissant dans des occupations si multiples à en avoir par-dessus la tête. Pourvu que nous n'ayons pas le temps de prier. C'est tout ce qu'il désire. Je vais vous dire un petit secret. Satan n'a absolument pas peur de nos études fastidieuses de la Bible, de la théologie. Pourvu que nous ne prions pas trop. Sachez que le diable rit parfois de tout le mal que nous nous donnons. Il se moque carrément et éperdument de notre grande connaissance. Par contre, croyez-le ou pas, il tremble. Et ceci, quand nous prions. Car soyons tranquilles, il a une connaissance des choses, qu'elles soient du domaine religieux ou de tout autre sujet, de millions de fois, croyez-moi bien, de millions de fois supérieures à nous, à nos connaissances qui sommes au fait, soyez sincères, très restreints, et de ce fait limité par le nombre des années que nous vivons ici-bas. Mais malgré que nous savons peut-être tout cela, est-ce que nous prions vraiment? Si ce n'est pas le cas, nous devrons nous attendre à des nombreux échecs, même si parfois il y a des signes de succès. N'oublions jamais que la chose la plus importante que nous puissions faire pour Dieu et pour l'humanité, c'est la prière. Car nous atteindrons par la prière bien davantage que seulement par le travail. quand nous prions, Dieu peut vraiment agir. Chaque fruit récolté dans le service pour le Seigneur est la conséquence de la prière et des prières de ces saints hommes et de ces saintes femmes qui prient pour tel ou tel serviteur ou pour des missionnaires, etc. Nous savons peut-être tous comment il faut prier. Et malgré cela, il est peut-être nécessaire de revenir encore une fois à la source de toutes choses, comme l'ont fait les disciples qui lui ont demandé « Seigneur, apprends-nous à prier. Tu es le chemin, tu es la vérité et la vie. Ô Seigneur, tu es le chemin qui mène au Père. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Toi-même, tu crias au jour de la détresse en t'adressant au Père. Oui, apprends-nous à prier au Seigneur. » Chers amis, quand nous serons un jour avec notre Seigneur dans la gloire et que nous verrons en rétrospective le film de notre vie passée, nous serons très étonnés de constater que notre vie de prière laissait bien à désirer. Nous allons être, croyez-moi, honteux d'étonnement d'avoir mis si peu de temps à la disposition de l'intercession dans la prière. Alors, croyez-moi, ce sera vraiment à notre tour de nous étonner de tout cela. Notre Seigneur Jésus-Christ, au dernier soir de sa vie ici-bas, nous a laissé un message d'adieu des plus glorieux. Écoutons un peu ce qu'il dit. Il dit « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes encore, parce que je m'en vais vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, et ceci afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Saint Jean, chapitre 14, versets 12 et 13. Chers amis, y a-t-il des mots plus simples et plus clairs que celle-là? Y a-t-il une promesse plus grande et plus importante? Connaissez-vous quelqu'un sur toute cette planète qui ait pu offrir quelque chose de plus grand? Je m'imagine l'émotion profonde des disciples. Ils purent à peine y croire. Or, mes chers frères et sœurs en Christ, ces promesses, il les a également offertes à toi qui écoutes ces paroles, afin qu'il ne subsiste plus, mais plus du tout, aucun doute à ce sujet, que ce soit pour les disciples ou pour toi, le Seigneur a dans son amour ineffable, répété cette promesse quelques instants plus tard. Voici ce qu'il dit dans Saint Jean chapitre 15, versets 7 à 8. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera rejeté. Non, vous avez mal entendu. C'est pour ça, de temps en temps, n'hésitez pas de noter les indications bibliques que je vous donne, parce que va savoir. Peut-être je vous amène dans l'erreur. Hein ? Tout peut arriver. Alors faites attention. Ne me croyez pas sans autre. Vérifiez. Alors je répète, pour corriger mon horrible erreur, un peu voulue, hein. Si vous demeurez en moi, dit le Seigneur Jésus-Christ, et que vous vraiment croyez à mes paroles, et que de vous demander certaines choses que vous aimeriez, alors, moi, je vous promets quelque chose. Tout ce que tu demanderas, ma chère sœur et mon cher frère, te sera accordé. C'est pas moi qui le dis. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père Céleste sera glorifié et que vous serez mes disciples. Ces paroles sont d'une telle importance et si significative que le Seigneur ne s'en tient pas seulement à le répéter 3 fois, mais il exhorte ses disciples avec insistance et avec une obéissance sans limite à ne pas avoir peur de demander. Il leur dit même ceci dans le verset 14, « Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande, et il va même faire davantage encore pour nous, pour toi mon cher ami, il répète encore une fois le désir qu'il a de nous aider, de nous offrir le meilleur. Et il dit dans le verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Et ceci afin que ce que vous demandez au Père en mon saint nom, il vous le refusera. » Non, 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 non. Il vous le donnera. Il semble donc maintenant que le Seigneur a été assez clair et qu'il désire la prière de ses disciples, et que sans la prière, ces derniers ne pourront rien faire. Mais à notre plus grande surprise, il va dire des paroles très semblables dans le chapitre 16, versets 23 et verset 24, toujours dans Saint Jean. Et là, il dit, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Demandez et vous recevrez. Et ceci afin que votre joie soit parfaite. Jamais auparavant, on peut voir que le Seigneur a insisté, par exemple, sur une promesse autant que sur celle-ci-là. Et cette merveilleuse promesse, il nous la donne non pas une seule fois, mais 6 fois. Oui, 6 fois, il nous commande de demander, de solliciter, d'implorer, voire même de supplier. Et ceci est la plus grande, la plus magnifique des promesses qui ait jamais été accordée à l'humanité. Et pourtant, la plupart des chrétiens semblent carrément la mépriser. N'est-ce pas le cas de nos jours? Si nous lisons Éphésiens chapitre 3, verset 20, là nous constatons la grandeur des promesses de notre Seigneur. La parole de Dieu nous dit là, dans Éphésiens 3, 20, « Or il peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou que nous pensons. » Mais la dernière exhortation qu'il nous donne avant d'être arrêté, lié et crucifié, c'est celle-ci. Excusez-moi. Vous demanderez en mon Saint-Nom, car le Père vous aime. Et aujourd'hui, il est assis où ? Il est assis sur le trône de sa Sainte Majesté. Et il nous tend le sceptre de sa toute-puissance. Allons-nous lui apporter nos besoins ? Il nous presse de bien vouloir prendre possession de ses trésors. Il nous enseigne que notre force et nos fruits dépendent entièrement mais totalement de nos prières. Il nous rappelle que nos joies dépendent justement des prières exaucées dans Saint Jean chapitre 16 verset 24 où il nous dit « Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Et malgré tout cela, nous permettons au diable de nous amener à négliger la prière, tout simplement. Hein ? Il y a tellement de choses beaucoup plus importantes. L'Internet et la télévision et tous les gadgets qui vont avec, les jeux sur Internet, des jeux de guerre. Je ne crois pas que ça va nous amener à la prière. Enfin, il ne me semble pas. Donc, l'ennemi veut nous faire croire que nous pouvons, par nos propres efforts, faire beaucoup plus qu'en perdant du temps à prier. Et que nos relations seront beaucoup plus efficaces que simplement nos intercessions devant notre Seigneur Jésus-Christ. Mais comment osons-nous travailler pour le Seigneur sans pour cela passer des heures à genoux ? Mais je vous le demande tout simplement. Si vous avez une bonne réponse, donnez-la moi. Voyez-vous, un serviteur d'école du dimanche a dit un jour, « Je n'ai durant ma vie absolument jamais eu une seule réponse de mes prières qui ont été exaucées. » Chers amis, mais pourquoi cela ? Dieu serait-il un menteur ? Ne pouvons-nous pas avoir confiance en lui ? Ses promesses sont-elles vraiment périmées ? Un grand prédicateur disait « Si nous désirons beaucoup travailler dans la moisson du Seigneur, eh bien nous devons demander et intercéder beaucoup. Nous devons devenir des hommes et des femmes de prière. Si nos prières ne sont pas exaucées, ce n'est pas la faute à Dieu, mais bel et bien la nôtre. » Chers amis et collaborateurs dans la vigne de notre Seigneur, c'est tout à fait évident que notre Seigneur désire que nous lui demandions beaucoup. Ce n'est pas pour rien qu'il dit « Vous m'honorez de cette façon-là ». Nous n'osons pas dire que les paroles de notre Seigneur ne sont pas vraies. Or, certains chrétiens ont plus ou moins confiance, plus ou moins. Hein? Mais qu'est-ce qui nous retient vraiment ? Qu'est-ce qui nous empêche d'ouvrir notre bouche ? Est-ce que nous douterions de sa sainte parole ? Impossible, car il a donné sa vie pour nous sauver, pour te sauver. Est-ce que nous doutons du Père ? Impossible également, car Jésus-Christ nous dit « Le Père vous aime ». Est-ce que nous douterions de sa puissance ? Impossible, car n'a-t-il pas dit dans Saint Matthieu chapitre 28 versets 18 et 20, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Peut-être avons-nous des doutes au sujet de sa sagesse. Et malgré tout, beaucoup de ceux qui désirent le suivre et le servir ne pensent pas du tout que la prière n'en vaille la peine. Bien entendu, nous allons nier tout cela, et pourtant les faits parlent plus fort que nos paroles. Avons-nous peu de... Par exemple, je voudrais dire, avons-nous peut-être, pourquoi pas, peur de mettre Dieu à l'épreuve? Là est le problème. Nous avons peur. Or, il a permis cela et nous incite à le faire. Lisez, notez, Malachie, chapitre 3, verset 10. Hein? C'est à la fin de l'Ancien Testament. L'Éternel dit, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Faites-moi de sorte l'épreuve. Hein? Mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et là, vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. » Chaque fois que le Seigneur a une promesse, nous pouvons répondre avec l'apôtre Paul, « Je crois ce que le Seigneur nous dit. » Actes des apôtres, chapitre 27, verset 25. Et de ce fait, nous pouvons lui faire entière confiance. Est-ce que nous allons maintenant, chers amis, devenir des hommes et des femmes de prière au cas où nous ne le servions ou ne le serions pas encore, que nous ne le servons pas dans cette manière-là? Donc, chers amis, ne remettons pas à plus tard en nous disant, par exemple, « Oh, eh bien, pour l'instant, moi, je ne vois pas la raison de tout cela. Je ne vois pas avec ma meilleure volonté où je prendrai, par exemple, le temps. » Mais ça, mes chers amis, c'est bien entendu le truc à Satan de nous chuchoter des belles phrases de ce genre, même s'ils ont l'air très véritables. Nous avons vu, et ceci d'une façon très claire, que Dieu désire que je prie. Nous avons également vu que Jésus-Christ désire que tu pries et que je prie. Croyez-moi, tout le déroulement de notre vie ici-bas dépend de nos prières. Je vous pose la question suivante. Si personne ne prie pour le salut des âmes, croyez-vous vraiment qu'il pourra y avoir un véritable réveil et des âmes convaincues de pécher, de se repentir et de changer de maître? Il y en a tellement de maîtres aujourd'hui, hein? Oh là là! Chers amis, le royaume des cieux et à votre portée, si vous vous engagez à prier tous les jours? Ou est-ce que, comme Ésaïe, chapitre 64, verset 6, nous devons dire « Il n'y a personne qui invoque ton saint nom, qui se réveille pour s'attacher à toi, et que nous devons répondre un jour comme il est dit dans la seconde moitié de ce même verset, où il est dit aussi, « Nous as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr, périr par l'effet de nos crimes et de nos péchés ?» Ne faisons surtout pas, en croyant ainsi d'avoir une bonne conscience, ce que certains font, qui, en effet, prient une prière qui sort d'entre leurs dents d'une façon monocorde, comme une récitation répétée la 10e fois tout en ayant l'esprit préoccupé surtout des mille et une choses de la vie journalière. Ou tard le soir, au lit, après un film de violence ou de bas étage, quand les yeux se ferment pour dormir et que le sommeil nous gagne, si l'on demandait à ces personnes-là le lendemain matin s'ils peuvent dire ce qu'ils ont prié le soir d'avant, croyez-moi, ils seraient très empruntés et certainement assez gênés de vous répondre. Ce qui est surprenant, ce n'est même pas tellement de voir que nous prions si peu, mais que nous ne pouvons pas rester un peu sur nos genoux quand on connaît tous les besoins de nos familles, de ceux que nous aimons. Il n'y a pas de raison que nous détestons tous nos voisins, tous les besoins des missionnaires, par exemple, et ceci dans le monde entier, ainsi que de nos églises, de nos villes, de notre pays et de toute une partie du monde qui n'a encore presque pas pu recevoir la bonne nouvelle depuis de nombreuses années et de tous ceux qui sont persécutés à cause de leur foi en Jésus-Christ. Ne devons-nous pas prier afin de pouvoir participer un peu aux richesses qui nous seront données dans la gloire en Jésus-Christ. Un serviteur qui était interrogé d'où venait que son ministère était si béni a répondu ceci. Tout simplement, j'attribue cela uniquement à ce que je suis en communion permanente avec mon Seigneur. N'oublions pas que le plus grand de tous les pasteurs, évangélistes et missionnaires se trouvait parfois en prière durant des nuits entières. Pourquoi ne pensez-vous pas que ce fut uniquement afin que plus tard cela puisse être cité comme exemple? Non, c'était, voyez-vous, chers amis, parce que Jésus-Christ lui-même en avait besoin. Or, si pour lui, qui était quand même sans tâche et sans péché, contrairement à nous, la prière semblait de la plus grande nécessité, combien plus pour vous et moi sera cette prière nécessaire? Un médecin missionnaire qui avait entendu que certains grands hommes de Dieu priaient jusqu'à 4 heures par jour avait répondu catégoriquement ceci. « Donnez-moi 10 minutes et cela sera bien suffisant. » Mais cet homme, bien que cela était invraisemblable à pouvoir comprendre, au moins cet homme était catégoriquement honnête. Si on nous posait la question, serions-nous aussi honnêtes que lui? Vous connaissez peut-être l'histoire de la vie de John Hyde, ce géant de la prière. Une femme qui, après avoir lu son livre, ça n'existe plus aujourd'hui évidemment, depuis longtemps, elle devait reconnaître que, comparé à ce qu'elle venait de lire, elle n'avait encore jamais vraiment prié. Chers amis, ne promettez pas de prier tant et tant de minutes tous les jours, mais décidez-vous simplement à prier, pas en se forçant, mais que cela vienne tout simplement de votre cœur. Car si nos intentions ne sont pas absolument sincères, d'ici quelques semaines, notre prière n'existera plus du tout. Je suis 100% sûr d'une chose, le Seigneur désire que je prie et que vous priez. La question est seulement celle-ci. Est-ce que nous allons obéir à cet appel? That is the question. Dans Saint-Luc, je crois, chapitre 11, verset 1, il est dit que Jésus-Christ priait un jour en un certain lieu, et lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Maître, enseigne-nous à prier. Les disciples de Jésus-Christ ne lui demandèrent pas « Enseigne-nous à prêcher ». Ils lui ont pas demandé « Enseigne-nous à chanter », peut-être même en soprano. Mais ils ne lui demandèrent qu'une seule chose qui leur semblait absolument essentielle. « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Je préfère de loin être un homme de prière qu'un grand prédicateur. J'aimerais mieux posséder une telle puissance de prière capable de mouvoir le bras de Dieu. On peut suivre un enseignement spécial pour devenir des grands prédicateurs et conférenciers, mais seul Jésus-Christ peut vraiment enseigner à des hommes et des femmes la véritable vie de prière. Par la prière, il y a eu sur terre des réveils extraordinaires qui n'auraient jamais eu lieu avec les seuls efforts de la prédication. Car là où il y a manque de prière, notre prédication sera absolument sans force et sans saveur. Il nous faut jamais oublier que la prière ne peut être considérée comme une science ou un art, car la prière, c'est tout simplement une vie. Oui, l'art n'est accessible qu'à ceux qui ont reçu un don spécial, tandis que la prière est un ministère dans lequel nous pouvons tous nous réjouir. Oui, la prière est un privilège que chacun peut vraiment recevoir. D'habitude, il faut une longue et minutieuse formation pour devenir un prédicateur ou un serviteur capable de faire de la cure d'âme. Mais, par contre, voyez-vous, le ministère de la prière est offert à chaque enfant de Dieu absolument gratuitement, que vous soyez une femme ou un homme. Tous, évidemment, ne sont pas appelés à devenir des professeurs en théologie, des prédicateurs, etc., ou des personnes capables de faire de la cure d'âme. Mais, par contre, il n'y a aucune restriction ou aucune limite en ce qui concerne devenir un homme ou une femme de prière. Il n'y a rien de plus grand et de meilleur que l'exercice de la prière. Il n'y a pas besoin d'un appel ou des capacités spéciales pour tout cela. L'enfant de Dieu le plus simple et le plus faible peut avoir une vie de prière aussi efficace que le professeur le plus qualifié de la terre. Malgré tout cela, les faits démontrent que la puissance de la prière est la chose qui est le moins utilisée. beaucoup de chrétiens soupirent qu'ils ne peuvent faire quelque chose d'effectif pour le Seigneur. Or, ils oublient totalement qu'il n'existe pour le croyant pas de plus grande chose que la puissance de la prière et de l'intercession. Donc, Dieu a besoin bien davantage d'hommes et de femmes de prière que de prédicateurs. Il n'y a rien qui est davantage négligé que la prière. Et l'Église se trouve dans un triste état de mondanité, de désintéressement et de indifférence totale. Et c'est pour cela qu'il faut que le cri des disciples devienne le nôtre qui dit « Seigneur, enseigne-moi de prier ». Il est un fait qu'il y a plusieurs manières de prier. À la question du disciple, le Seigneur Jésus-Christ donna une réponse très précise. En parallèle avec l'évangile de saint Matthieu, le Seigneur nous a donné quelques directives concernant la prière. Ensuite, il nous donne la prière de notre Père, appelée aussi la prière de Jésus-Christ. Mais en réalité, c'était surtout la prière des disciples. La prière de notre Seigneur Jésus-Christ se trouve dans saint Jean, chapitre 17. Et c'est la première sacerdotale que le Seigneur priait avant d'entreprendre son chemin de la Passion. Je répète, c'est la prière carrément sacerdotale que le Seigneur avait priée avant d'entreprendre son chemin de la Passion. C'était le chemin de la croix pour Golgotha. Donc, la prière est une chose qu'il ne faut pas avoir peur de cultiver et d'exercer. Bien que beaucoup de gens font des efforts louables pour devenir des prédicateurs, évangélistes ou missionnaires, il y en a peu qui désirent étudier et de s'adonner à la prière telle qu'elle nous est enseignée dans tout le Nouveau Testament. Dans nos écoles bibliques ou de théologie, nous avons toutes sortes de secteurs d'études dans lesquels on peut étudier des sciences telles que l'histoire de l'Église, le grec, l'hébreu, l'homélie, l'étude de la prédication, le latin, etc. Mais pouvez-vous me dire dans laquelle de ces facultés ou séminaires on apprend à devenir un homme, une femme de prière? Chers amis, un grand homme de Dieu disait que ce n'est pas toujours celui qui fait des plus longues prières en public qui est le plus efficace, mais c'est celle et celui qui intercède dans sa petite chambre. Si nous étudions les prières que la Bible, la parole de Dieu mentionne, nous constaterons que les longues prières en public sont extrêmement rares. Il n'y en a que quelques-unes faites lors d'occasions exceptionnelles. Si nous étudions toutes les prières du Seigneur Jésus-Christ, nous allons découvrir deux choses. Premièrement, qu'il était le plus grand homme de prière de tous les temps. Il priait, rappelez-vous, des nuits entières, et souvent il allait sur une colline où il passait des nuits, sans dormir dans la prière. Mais trouvez-moi des longues prières qu'il aurait faites en public. La prière qu'il donna en modèle est quand même très courte. Elle dure, vous pouvez le contrôler avec un chronomètre, elle dure au maximum 35 secondes. Et dehors, oui, en dehors de la prière sacerdotale de Saint Jean, chapitre 17, c'est là sa plus longue prière. Et nous nous sommes parfois imaginés tout simplement que ceux qui avaient des merveilleuses vies de prière, que de telles vies ont jailli spontanément de leur cœur, en quelque sorte en pleine floraison, sans aucune préparation du terrain, sans période de germination, ni de nettoyage de mauvaises herbes, arrosage ou de taille, enfin, sans rien de lent ou de pénible. Mais plus tard, beaucoup plus tard, nous avons été très soulagés et encouragés en découvrant que ces grands combattants et combattantes de la prière avaient eu leur lutte intense avec eux-mêmes, avec la chair et avec leur entourage, exactement comme nous aujourd'hui. Ceux dont nous admirons la vie de prière ont eux aussi trouvé dur, très dur, de rester bien éveillés et alertes dans la prière. Du reste, quelques-uns ont dû reconnaître qu'ils avaient besoin qu'on leur jette carrément de l'eau froide au visage ou d'avoir un réveil matin pour arriver à se lever à l'heure voulue. Leur foi aussi a connu des hauts et des bas. Ils ont dû lutter contre le découragement et se discipliner, avoir de la volonté et de la discipline sans cesse. Néanmoins, ces problèmes, et bien d'autres encore, ont dû trouver leur solution auprès du Seigneur. Chers amis, nous devons commencer notre vie de prière en prenant la décision bien définie de nous livrer consciemment et délibérément à Dieu, et ceci pour prendre et apprendre surtout, apprendre comment nous pouvons devenir des femmes et des hommes de prière. Si nous désirons apprendre à nager, eh bien, il me semble, nous devons prendre le temps nécessaire, nous devons nous jeter à l'eau et obéir à celui ou celle qui nous enseigne la natation. Eh bien, pareillement, nous apprendrons à prier en prenant le temps, en nous y consacrant et en obéissant à Dieu qui peut nous instruire. Prenons donc le temps, chers amis, consacrons le temps jusqu'ici, qui a été souvent à des choses futiles, à autre chose, et commençons simplement de prier. Mais commençons sérieusement, prenons la décision, car sinon, absolument rien ne s'accomplira. Dans la prière, on peut dire que la prière est en quelque sorte un ordre, je dis bien un ordre de Dieu, car elle doit être tant publique que privée. Et elle fait entrer dans une grande familiarité avec Dieu tous ceux qui ont l'esprit de supplication. Oui. C'est en outre une action si primordiale qu'elle obtient de Dieu de grands exaucements, et ceci tant pour la personne qui prie, que pour celles en faveur desquelles on va prier. Je terminerai cette première partie de notre étude en disant tout simplement cette toute petite prière de quelques mots avec vous. Ô Seigneur, déverse aujourd'hui même la plénitude du Saint-Esprit sur nous, et ceci afin que nous devenions des hommes et des femmes de prière. Amen. Chers amis, merci pour tout l'intérêt que vous portez à ces études. Et vous avez bien compris que cette série sur la prière, elle sera probablement la plus longue de toutes celles que nous avons faites jusqu'ici. Et après cela, viendra le domaine de la prière pour les malades, qui sera également tout aussi importante. À bientôt à nouveau, et que le Seigneur vous bénisse tous. Au revoir, mes très chers amis.